A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Il faut aimer le théâtre et ce que le théâtre peut nous dire de l'aliénation et de la liberté. Il faut aimer le théâtre pour pouvoir rencontrer Elisabeth Tcherchouk, femme de théâtre polonaise installée à Paris, où elle a créé le théâtre laboratoire, récemment devenu Théâtre Elisabeth Tcherchouk, lieu expérimental où plane l'âme de ses maîtres polonais, Witkiewicz, l'auteur, Tadeusz Kantor, le metteur en scène, Jerzy Grotowski, le théoricien du théâtre. Lieu où l'on peut lire le nom d'Elisabeth Tcherchouk en lettres pochoirs sur la rambarde d'un escalier. Lieu parisien hors norme où il se pourrait que vous croisiez le regard d'une femme très blonde, vêtue d'une robe blanche, un ours en peluche bandé dans les bras et qui ressemble comme deux gouttes de chevelure à notre invitée. Bonjour Elisabeth Tcherchouk.
Bonjour.
On va bien sûr évoquer ce théâtre un peu fou que vous avez créé, mais je m'interroge d'emblée. Je vous ai en face de moi. Est-ce que vous êtes réelle ou est-ce que vous êtes une vision?
Je pense que je suis souvent au-dessus de la réalité. Je me déplace dans mes fantasmes, dans mes désirs profonds qui, tout d'un coup, prend la forme et m'éloigne de ces galops de la vie qui n'est pas toujours facile.
Alors, pour En sol majeur, il a fallu que vous choisissiez dans votre pile de vinyle 2-3 artistes. Et c'est Czesław Niemen qui va ouvrir le bal. C'est un chanteur polonais qui a été proclamé le chanteur du XXe siècle à l'issue d'un plébiscite organisé par le journal Politica. À votre avis, pour quelle raison?
Il avait la voix particulière. C'était quelqu'un de très novateur en Pologne. Parce qu'il a osé dire beaucoup de choses à travers sa voix. C'était la voix qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Et sa force toujours était choquante pour tous les Polonais.
Sur RFI, ça ne s'invente pas, du rhythm and blues version Czesław Niemen pour les beaux yeux bleus d'une Polonaise qui a pris ses quartiers à Paris, Mademoiselle Elisabeth Tcherchouk.
enfant, est-ce que vous rêviez d'être Cendrillon?
Cendrillon,
cette princesse
qui peut changer quelque chose aussi, oui. Je ne pense pas que je voulais être Cendrillon alors, mais c'est sûr que je voulais toujours de changer quelque chose pour l'autrui, de pouvoir faire un peu de miracle. Alors peut-être dans ce point où j'ai rejoint Cendrillon, quand même.
Quelle petite fille vous étiez ?
Très pensif. Je me projette dans l'image sur le petit escalier qui donne vers le jardin. Et je pense, je réfléchis, je regarde les fleurs. J'étais une fille très autonome et très adulte, toujours.
Une petite fille assise dans le jardin, un jardin plein de mouches, plein de guêpes, plein de feuilles et avec la messe polonaise au loin. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez vous éloigner de la maison ?
Oh, je n'étais pas bien, simplement. Je n'étais pas bien dans la vie quotidienne. Je n'aimais pas la vie quotidienne. Je n'aimais pas m'asseoir à la table, manger, de faire ce qu'ils font d'autres filles. J'étais très poétique, déjà romantique quand j'étais petite, parce que je me souviens que je commençais d'écrire mes premiers poèmes quand j'étais toute petite, vraiment, quand je connaissais pas encore vraiment bien la langue polonaise, pour que le poème...
La Pologne des années 70-80, puisque vous êtes née dans les années 70, c'est une période de troubles, c'est une période de révolte dans le pays, c'est aussi la période, je donne deux, trois repères, où l'archevêque de Cracovie devient le pape, Jean-Paul II, c'est une terrible provocation à l'époque pour le régime communiste en place. Période enfin où la fronde syndicale emmenée par Solidarność de Lech Walesa fait tituber le terrible pouvoir de Jaruzelski. On se souvient des lunettes noires de Jaruzelski, le général. Vous, né dans ces années-là, vous avez finalement vécu les derniers instants de la guerre froide. Vous vous souvenez de quoi ?
Je me souviens d'une fille adolescente confrontée à avoir la faim, d'être face de l'agressivité, oui. Il y avait la guerre froide en Pologne, alors il y avait certains moments très durs que j'ai vécu.
Vous avez rejoint le mouvement Solidarność ou pas ?
J'étais mélangée, même sans aucun désir, parce que j'étais encore assez jeune et je n'avais pas encore de point de vue très clair sur la politique. Mais par contre, j'habitais dans la ville Wrocław et il y avait beaucoup de manifestations. Le lycée était situé au centre de la ville et il y avait une grande église à côté. Quand les gens sortaient de l'église, que tout d'un coup, il y a une sorte d'armée avec des bâtons qui apparaissaient pour récupérer certaines personnes. Alors c'était toujours dans le danger. Je me souviens qu'on courait dans la rue pour se sauver quelque part, pour rentrer dans l'immeuble, sur l'escalier, pour ne pas être attiré par quelqu'un et battu par hasard.
Vous êtes né dans une ville dont je ne vais pas réussir à prononcer, allez-y.
Oui, Wrocław.
Vous y voyez un signe d'être né dans cette ville qui, à la fois, aujourd'hui, quand on la regarde sur Internet, c'est une ville de poupées avec des églises, des marchés, des calèches à l'époque. Mais c'est aussi la ville du grand Grotowski. Est-ce que vous y voyez un signe, vous qui êtes une femme de théâtre aujourd'hui ?
Si je voyais les signes.
Oui, c'est pas un hasard d'être née dans la ville du grand théoricien du théâtre.
Oui, je pense que rien dans ma vie n'était pas par hasard.
Pourtant, Elisabeth Chorchouk, vous n'êtes pas née dans une famille d'artistes ?
Non, pas du tout. Je suis née dans la famille des médecins. Je devais être médecin. Même je commençais mes études des facultés de biologie et chimie. Je voulais toujours d'être utile dans ma vie, de transmettre quelque chose, de faire des miracles, comme on a dit au début, de sauver la vie de quelqu'un. Par contre, je me suis aperçue que c'est pas vraiment pour moi.
Pourquoi ?
Parce que je n'étais pas...
Est-ce que vous vouliez sauver le monde ?
Et oui, je voulais sauver le monde, mais je me suis aperçue qu'à travers juste de la médecine, en restant juste médecin, ce n'est pas si efficace. Que finalement, on peut trouver d'autres moyens à travers de l'art. De l'art cathartique, de sauver l'esprit après le corps suit l'esprit, alors ce serait la remède pour les gens plus efficace.
Quel est l'objet le plus précieux dont vous êtes en possession?
C'est le crâne. C'est le crâne qui me suivait toujours dans ma vie.
Je n'ai pas fait médecine, alors je suis perdue.
Je n'ai pas fait la médecine, par contre, cette crâne, on m'a offerte quand j'étais encore très jeune. C'est le crâne qui m'a provoqué de prendre la décision de devenir un jour médecin et pouvoir ensuite guérir les gens. Mais finalement, ce n'était pas le cas parce que cette crâne, il est devenu l'objet très précieux pour après de rentrer dans le texte d'Oscar Wilde et de travailler Salomé qui coupe la tête de Yohanan et qui fait toutes ses promesses de l'amour en parlant avec cette tête. Et cette crâne, après, je voyageais ensuite dans ma vie avec cette crâne.
Et oui, parce que le voyage, il est jusqu'à en sol majeur, vous nous l'avez ramené, ce crâne.
Oui.
Vous voulez bien le prendre? Donc ça, c'est un crâne qu'on offre, j'imagine, dans les années 80 aux étudiants en médecine, comme vous l'étiez.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée, finalement, de l'utiliser pour dire un texte d'Oscar Wilde?
En restant dans contact avec cette crâne, en essayant de me forcer à apprendre tous les mots en latin, je pense que je me suis très vite déplacée dans mes fantasmes. Et je m'ai imaginée exactement comme Salomé, avec cette tête qui veut tout en coup donner la vie à cette crâne et de voir le corps intégral. Peut-être qu'il y a le crâne qui ressemble de celui-là.
Alors, il faut rappeler simplement que Salomé d'Oscar Wilde a été écrit à partir d'un épisode biblique de Salomé, donc la fille du tétrarque de Galilée, un certain Hérode Antipas, qui demande, donc Salomé demande qu'on lui apporte sur un plateau d'argent la tête de Yohanan, donc Jean le Baptiste, comme récompense pour avoir exécuté la fameuse danse des sept voiles. C'est un texte qui a été censuré à l'époque par le Royaume-Uni en 1891 parce qu'il considérait que c'était impossible de représenter des personnages bibliques. Ça nous rappelle quelque chose. Qu'est-ce qui vous intéressait à l'époque dans ce texte d'Oscar Wilde, Elisabeth Churchuk?
Le texte, il est très fort. Exactement, il s'approche beaucoup de textes bibliques parce que il y a la force du corps, de l'intégralité du corps, de l'amour en même temps très physique jusqu'à la tripe. Et c'était choquant pour moi, pour jeune fille, de découvrir ce texte et de l'apprendre par la suite. Tu n'as pas voulu me laisser baiser ta bouche, Yohanan. Eh bien, je la baiserai maintenant. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je te l'ai dit. Czemu tak patrzysz na mnie? Czemu ty tak ciągle na mnie patrzysz? Toi, qui étais si beau, maintenant, tu me regardes. Non, tu ne veux pas me regarder, non. Dlaczego? Dlaczego nic nie mówisz? Czemu jesteś taki smutny? Dlaczego jesteś taki smutny? Dlaczego? Dlaczego nie patrzysz na mnie? Laisse-moi baiser ta bouche, Yohanan. Laisse-moi baiser ta bouche.
Incroyable moment en sol majeur avec vous, Elisabeth Churchuk. Il est évident que le théâtre pour vous, d'abord, parce que je vous ai vu vous métamorphoser juste en étant assise et en ayant ce texte à dire de d'Oscar Wilde, Salomé, vous si pure, si blonde, tout à coup vous vous fripez, votre corps se rabougrit, j'ai presque envie de dire, vous pourriez disparaître dans ce langage. Le théâtre, c'est le corps d'abord pour vous.
Oui, parce que même la voix commence dans le corps, c'est le mouvement des cordes vocales. Et le théâtre, pour moi, existe quand il est total.
Évidemment, en vous regardant discuter avec un crâne, je me suis souvenu d'Hamlet, discutant il y a quelques siècles avec le crâne de Yorick, comme ça, qui était le bouffon du roi et qui était en terre depuis des décennies. Symbole donc de la mort inéluctable, cette dialectique, comme ça, avec le crâne. Qu'est-ce que ça représente pour vous, de discuter avec un crâne ?
S'approcher vers la mort.
Sur votre route du théâtre absolu, il y a eu deux noms, deux grands hommes de théâtre polonais qui ont surgi et qui vous ont formé, Elisabeth Czerczuk, Grotowski, donc, théoricien du théâtre pauvre, comme on dit, et puis Tadeusz Kantor, metteur en scène. Qu'est-ce que vous avez appris avec eux ?
J'ai appris rentrer en moi et complètement de m'oublier, mais de m'oublier pour créer quelque chose qui peut être inoubliable. Alors, j'espère rentrer complètement dans mes tripes. J'utilise souvent ces mots parce que ce n'est pas si simple. Parce que les tripes, ça veut dire que c'est quelque chose de très physique, mais en même temps brutal et en même temps agressif.
Le théâtre de Tadeusz Kantor, c'était un univers totalement subversif dans la Pologne des années 80.
Et oui, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et c'est lui qui arrivait de choquer le public. C'était sur la mort, sur la guerre, c'était sur ses propres vécus, mais il a osé de dire ça sans aucun tabou, oui.
Alors, vous allez décrocher en 92 une bourse pour vous rendre à Paris. On suit la jeune adolescente polonaise que vous avez été. Et là, Paris, bah, c'est un autre univers. Vous êtes jetée auprès d'hommes de scène totalement différents de Tadeusz Kantor et Grotowski, puisque vous intégrez, par exemple, la classe de Daniel Mesguich, donc au CONS, au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Vous l'avez choisi. Hein, oui. Daniel Mesguich. Et puis, lui, il a un rapport au texte très particulier, mais vous allez aussi approcher un spécialiste du silence, en la personne du mime Marceau.
Le mime peut, en exprimant des états d'âme, s'identifier presque dans l'immobilité avec la musique. Donc ce sont des mouvements très ralentis, comme si on dirigeait.
Je te demande de me jouer une jeune fille qui, dans un Prévoit une fleur, qui la respire et qui est bien. Comment le ferais-tu ? Voilà.
Pour mon art, c'est pareil. Je suis parfois gêné de parler parce que des philosophes ou des gens qui sont habitués à parler choisissent des mots précis, comme moi j'ai choisi le silence.
Non, sans plier, deux mains naturelles. Deux, hop, baisse-toi pour ramasser la fleur lentement, doucement. Poétique, comme un ange. Voilà, descends lentement.
Alors je sais qu'avec un geste, je ne ferai jamais une erreur. Je sais qu'avec les mots, je ferai souvent des erreurs.
Pique la fleur, tac.
Le mime Marceau sur RFI, donc on s'en souvient, magique à regarder juste cueillir une fleur et passionnant aussi à écouter rompre le silence. Le mime Marceau qui aura inspiré le moonwalk d'un Michael Jackson. Qu'est-ce que la comédienne de théâtre que vous êtes, Elisabeth Czerczuk, a appris à son contact ?
Passer l'émotion dans le silence. J'étais toujours intriguée par le corps, déjà en Pologne, par le théâtre Henryk Tomaszewski, qui connaissait bien aussi Marcel Marceau, mais qui avait un peu différentes techniques. J'étais très curieuse de comprendre comment Marcel Marceau, comment il travaille, d'où vient cette force de transmettre des messages souvent très importants juste à travers du corps, dans le silence ou juste sur une musique. Et les rencontres que j'avais avec lui étaient très fortes. C'est toujours les rencontres avec des grands créateurs qui m'apportaient beaucoup de souffle, je pense. Quelque chose qui pouvait après m'inspirer pour d'autres choses.
Pour la danse, parce que vous êtes aussi chorégraphe ?
Oui, je suis chorégraphe d'émotion, chorégraphe du théâtre.
Chorégraphe d'émotion.
Oui.
C'est quoi une chorégraphe d'émotion?
Oui, je préfère dire que je suis chorégraphe d'émotion parce que je travaille plutôt avec les comédiens, aussi un peu avec les danseurs, mais c'est avec les comédiens que je préfère peut-être travailler parce que ils ont déjà beaucoup d'émotions en eux et ils ont besoin juste de trouver la forme pour pouvoir les exprimer. Et avec le danseur, c'est le travail contraire, mais aussi passionnant, parce que ils ont de jolies formes, de jolis gestes, mais souvent, ils manquent d'émotion.
Alors, on vous imagine presque installé à Paris, dans ces années 90, oui. Mais je me demandais, en étant imprégné, comme vous l'étiez, de Grotowski et de Cantor, si vous n'aviez pas souhaité revenir en Pologne, finalement, pour faire perdurer leur théâtre.
Non, parce que j'essayais de revenir en Pologne, mais malheureusement, je suis tombée dans une période où la Pologne n'était pas encore dans l'Europe et l'ambiance n'était pas favorable pour faire l'art. C'était plutôt l'époque pour businessmen de l'art et pas pour des vrais artistes. Et alors, je suis décidée de revenir en France et de continuer mon travail et mes recherches personnelles artistiques en France.
Heureuse aussi peut-être d'écouter l'impérialisme américain en cachette, je sais pas. Est-ce qu'on pouvait écouter facilement Tom Waits à Cracovie?
Je pense qu'aujourd'hui, oui.
Oui, mais hier... Mais,
ah oui, c'est pas évident si aujourd'hui on peut. Maintenant que je suis pas beaucoup en Pologne, mais juste j'entends ce qui se passe et je pense que malheureusement la censure revient. C'est triste.
Qu'est-ce que vous aimez dans Tom Waits?
J'aime parce que c'est complètement d'autres styles que ce soit Niemen, mais aussi il y a des tripes.
Il y a du chaos dans sa voix, il est abîmé par la vie.
Oui, oui, mais c'est
vous
la
aimez
vie
ça.
Exactement, j'aime oui. Ça, oui, parce que c'est vrai, c'est naturel de lui.
Comme un col roulé, hein. Ça s'appelle Tom Waits sur RFI et ça s'écoute en toute saison, c'est si bon pour un sol majeur. Et c'est tellement Elisabeth Czerczuk, née pendant la guerre froide en Pologne, qui est venue se réchauffer sur les plateaux de théâtre en France.
De combien de malheurs pour vous persécuter vous ai-je pour un mot sacrifier mes pleurs.
R.
Vous regrettez un père, hélas. Faible douleur.
Comme.
Et moi, ce souvenir me fait frémir encore.
Racine.
On voulait m'arracher de tout ce que j'adore.
Ce petit gaillard, toujours tâtonnant ses gouvernantes, sans dessus-dessous.
Ou Rabelais.
Sans devant-derrière, ribouriqué, et déjà commencé à exercer sa braguette, laquelle chaque jour, ses gouvernantes, ornées de beaux bouquets, de beaux rubans, de belles fleurs, de beaux flocards, et passer leur temps à la faire revenir entre leurs mains.
Plutôt Racine, pour plusieurs raisons. Je ne connais pas trop Rabelais parce qu'il n'était pas traduit en Pologne, mais j'aime Racine. Je l'ai découverte plutôt en France, même si déjà je m'intéressais en Pologne, mais il n'y avait pas de bonne traduction. La traduction était vraiment stupide, si je peux dire, parce que c'était pas en vers, c'était en prose. Alors quand j'ai découvert en Pologne Racine en prose, on ne comprenait rien vraiment, c'était incompréhensible. Par contre, Racine, j'ai découvert grâce exactement à mon cher professeur Daniel Mesguich, parce qu'il m'a proposé de l'assister à la Comédie française pour Mithridate et Andromaque, qu'il a réalisé. Alors lui, il fait beaucoup attention à Alexandra. Et j'ai découvert vraiment cette poésie magnifique des Racines.
Coupe du monde de football ou cinéma d'auteur ?
Au cinéma d'auteur. Je ne m'intéresse pas du tout au football.
Vous êtes bien la seule au monde alors ? Vous ne regardez pas du tout le foot ?
Non, pas du tout.
Vous ne savez pas si la Pologne est dans la course, plus dans
non,
la course ?
Non, je ne sais rien. Je me souviens juste qu'on se moquait de moi quand j'étais de nouveau petite, parce qu'il y avait Coupe du Monde à Montréal, et même on m'a acheté un sac avec Montréal, un sac rouge. Je posais une fois la question, « Ah oui, il y aura le Coupe du Monde à Montréal ?» Même je ne savais pas que c'était déjà passé. Alors c'était drôle.
Borscht ou bœuf bourguignon ?
Borscht, c'est ma soupe préférée. Elle est faite de betteraves. En Pologne, on mange beaucoup. Et j'aime beaucoup cette soupe.
Autofiction ou fiction ?
Pourquoi pas fiction ?
Mais pourquoi pas autofiction alors ?
Pourquoi pas autofiction aussi ? À vrai dire, c'est pas non plus quelque chose qui m'inspire.
Ah oui ? Mais est-ce que le théâtre, c'est pas déjà le début de la fiction ?
Peut-être, mais ça dépend comment on le traite, qu'est-ce qu'on apporte et qu'est-ce qu'on donne pour le théâtre.
Facebook ou correspondance épistolaire ?
Je suis malheureusement dans Facebook parce que je fais la promotion du théâtre et on ne peut pas vivre sans Facebook aujourd'hui. Il faut être quand même à la mode pour arriver de communiquer avec des gens aujourd'hui.
Mais vous avez du mal.
Peut-être j'ai du mal, mais quand même je commence à m'habituer.
En tout cas, il y a cette langue dans laquelle vous êtes jetée depuis des années maintenant, la langue de Molière. Est-ce qu'au début, quand vous êtes arrivée en Pologne, je crois que vous parliez à peine le français, hein, est-ce que ça vous a fait bizarre de vous retrouver sur un plateau de théâtre et à devoir dire cette langue étrangère pour vous ?
Pour la langue étrangère dans le théâtre, non, ça ne me pose jamais de problème. Déjà, en rentrant dans l'acte théâtral, on a cette sorte de protection, qu'on rentre dans le personnage, Il y avait cette protection d'une frontière, se noyer complètement dans ses émotions.
Mais comment avoir accès à ses émotions quand on est dans une langue qui n'est pas la sienne ?
C'est comme apprendre un monologue. Ça donne exactement cette protection encore en plus. Parce qu'on travaille à travers des images, par exemple le mot « la rose ». En polonais, on dit « rouge ».« Rouge ». Et en parlant « rouge », je vois déjà la fleur. Alors, je vois la rose.
Oui, mais quand vous dites la rose, qu'est-ce que vous voyez ?
Et quand je vois la rose maintenant, au bout de quelques années quand je suis en France, oui, effectivement, maintenant, je vois la rose. Mais au début, ce n'était pas évident. Au début, j'étais obligée de me déplacer avec certaines images vers le flair. Et c'était le travail encore plus approfondi.
Alors, c'est très intéressant parce que vous êtes investie dans ce théâtre, le théâtre français, on va dire, Elisabeth Tcherchouk, tout en ayant des références polonaises très ancrées en vous. Je pense par exemple à Stanisław Ignacy Witkiewicz, né en 1885 à Varsovie. C'est un dramaturge pamphlétaire polonais dont la vie, enfin le passage sur Terre, a été marqué par un geste ultime, celui de son suicide en 1939. Il s'est suicidé pour quelle raison ?
Il s'est suicidé parce que Deuxième Guerre mondiale a éclaté et il a décidé ça déjà dans son œuvre L'Inassouvissement, où il s'est identifié au personnage principal.
Qui se suicide aussi.
Qui se suicide aussi si la guerre éclate. Ma vie se déroule comme un affreux cauchemar, en marge d'une autre vie. Ma véritable existence qui est morte. Je dois en avoir conscience. Peut-être aurais-je ainsi la force d'endurer des tourments encore pires. C'est le fragment de monologue de la mère de Witkiewicz. La construction des personnages, il est très intéressant parce qu'elle apparaît au début de la pièce comme une vieille femme, comme la mère, comme la créatrice. Mais ensuite, elle se déplace dans le temps, elle devient une jeune fille qui est enceinte, qu'il porte son enfant, son fils dans le ventre, qui est toujours à côté d'elle et qui est déjà plus âgée qu'elle, parce que ça se passe après sa mort. Et le texte alors de cette jeune fille. Le jour où on a enterré maman au cimetière, j'ai enterré toutes mes poupées dans le jardin.
Pochowałam wszystkie moje lalki w ogrodzie.
Maman, c'était ma plus grande poupée.
Moja mama też była wielką lalką.
Papa aussi jouait avec elle comme avec une poupée.
Mój tato ciągle grał z nią.
J'ai eu 12 ans et maman est morte.
Jak z lalką. Mama umarła.
Le croque-mort ont enterré maman.
I ja pochowałam
et j'ai enterré toutes mes poupées
w ogrodzie.
Dans le jardin.
Une de vos maisons, on a envie de dire Elisabeth Tcherchouk, l'univers de cet auteur polonais Witkiewicz. Je vous regardais disant ce texte et j'écoutais aussi beaucoup votre voix. Il y a dans votre diction et une manière de projeter comme ça le texte quelque chose de la tragédienne, c'est ça que vous recherchez? Vous vous sentez tragédienne?
Oui, c'est vrai, on m'a dit ça déjà plusieurs fois, je pense que oui. Je me sens tragédienne parce que peut-être tout ce que j'ai vécu et ma façon de vivre, parce que je me balade souvent entre la vie et la mort, peut-être c'est ça aussi.
Alors comment vous présenteriez le triptyque que vous avez signé après Démentia, après Cox 2.0 et puis Matka? On pouvait voir récemment chez vous, dans votre théâtre à vous à Paris, Requiem pour les artistes. Quel est le fil qui unit ces trois textes?
Dans toutes les trois pièces, on a toujours le même protagoniste, les artistes. Et c'est l'histoire des artistes. Alors, Requiem pour les artistes. On s'exprime nous-mêmes, les artistes de notre siècle, qu'ils cherchent une sorte d'épanouissement, qu'ils cherchent la façon de s'exprimer, souvent en vain, pour plusieurs raisons.
L'autocensure, la censure?
Oui, dans certains pays la censure, dans certains pays la pauvreté, dans certains pays le problème des intermittents, etc.
Ouais. Je relisais un petit peu un bout du journal philosophique de votre auteur favori, Witkiewicz, qui disait « Nous n'avons plus rien à perdre, la société nous entraîne vers la moutonisation définitive ». Il faut de toute urgence dématérialiser le socialisme sans faire exploser la société, ni fabriquer des surbouffons à la Nietzsche. Ça se traduit comment, ça, artistiquement? Si vous nous donniez une image, le tableau, par exemple, qui ouvre Requiem pour les artistes.
Le premier tableau de Requiem pour les artistes, c'est les artistes avec des grandes valises. Et dans leurs valises, ils apportent peut-être la société, pourquoi pas. Ils apportent la mort, ils apportent peut-être la vie, certains. Mais en tout cas, tout se cache dans ces valises. Et c'est la valise qui prend le pouvoir sur les artistes. Et de dévoiler quelque chose qui est plus riche intérieur, qui est caché intérieur. Et ensuite, les artistes sont déplacés là-bas où l'amour existe, là-bas où on peut retrouver l'harmonie entre les hommes, dans les bandes de l'école. Alors on se retrouve à la fin du spectacle comme des enfants qui peut-être peuvent recommencer leur vie différemment.
« Votre théâtre, Elisabeth Tchertchouk, à Paris, est habité par de drôles d'objets, des objets hétéroclites. Là, je peux reconnaître un landau de bébé avec des poupées en celluloïd à l'intérieur. Et puis ici, il y a des mannequins féminins en guêpière qui nous toisent. Et je les vois grâce à quoi ? Grâce à des chandeliers éclairant à la bougie. C'est ce décor, ce décorum. Ce théâtre où vous êtes un peu le maître d'œuvre de ce que vous appelez le laboratoire de radicalité artistique est un théâtre qui dit non à quoi ?
Qui dit non à hypocrisie, qui dit non à mensonge.
Et vous dites que c'est un théâtre du 21e siècle, parce qu'évidemment il y a des outils d'aujourd'hui dans votre théâtre, mais c'est aussi un théâtre aux solides racines slaves.
Oui, parce que le souci du théâtre... c'est catharsis. Et ensuite, la Bible du théâtre, c'est Constantin, il défonce Stanislavski. Et Stanislavski, c'est l'émotion, c'est la vie intérieure des comédiens, c'est la mémoire émotionnelle. Alors, c'est ça la base de mon théâtre. Par contre, je cherche la forme contemporaine, la forme qui sera accessible à notre spectateur d'aujourd'hui. C'est impossible de rester juste sur le dictionnaire de Stanislavski avec des larmes qui coulent des yeux d'artistes qu'on ne peut pas, à travers de ces larmes, toucher le spectateur. Par exemple, je parlais des valises, je parlais de chaises qui sont très importantes, qui sont étaient aussi très importantes chez Cantor. C'est les chaises qui deviennent une métaphore de spectacle, parce que c'est les chaises, ça peut être nos chaises, notre fauteuil, notre poste, notre stabilité de la vie, du calme. Alors ces chaises qui commencent de nous bousculer, de ne pas être d'accord qu'on reste assis, alors qui prend le pouvoir, qu'il nous jette dans l'espace, qu'il nous anime, qu'il nous terrorise aussi. Oui, alors ça peut être choquant. J'espère que ça peut choquer, mais dans le sens toujours très positif, pour apporter cette choc métaphysique plutôt, pour éveiller en nous une sorte de cri métaphysique.
Est-ce que malgré ce théâtre révolutionnaire que vous êtes en train de nous décrire, Elisabeth Tchertchouk, vous seriez d'accord qu'on frappe les trois coups, vous savez, comme dans les théâtres bourgeois ? Pour vous entendre dire un bout de texte, mais en français, un texte de votre choix.
J'aime beaucoup Jon Foss, poète dramaturge norvégien. Je fais une adaptation de La Rêve d'automne. J'aime beaucoup cet écrivain qui est très minimaliste, mais en même temps baroque. Parce que, à travers des mots très simples, il arrive de transmettre grande richesse. Toujours quand j'ai envie de mourir, je pense à toi. Parfois, je sens alors que tu es là. Parfois, je ne sens rien. Et alors, tu n'es pas là. Mais souvent, tu es là. Et j'ai plus souvent envie de mourir lorsque je sens que tu es là que lorsque je sens que tu n'es pas là.
তুমি কি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো?
Est-ce qu'à votre avis, notre existence est le fruit du hasard?
L'existence, pour moi, c'est le destin. si on peut considérer que c'est le fruit des hasards, mais à partir de ce fruit, le fruit, il est pour faire quelque chose quand même dans cette vie. Alors après, ce n'est plus hasard.
Le théâtre est souvent une religion et on y pense quand on vous écoute parler de théâtre. On sent même une dimension sacrificielle dans votre manière d'aimer le théâtre et de le vivre. Mais est-ce que la religion, c'est votre petit théâtre intérieur? Est-ce que la spiritualité est une compagne pour vous?
Oui, parfaitement, complètement. Pour moi, le théâtre, c'est une sorte de temple parce qu'on donne notre âme.
Vous parliez de destin à l'instant, Elisabeth Tcherchouk. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard qu'une Polonaise se retrouve en France?
Non, pas du tout. Pour moi, je crois que je suis croyante, mais je suis très, très libre avec ma croyance. J'étais élevée dans la famille très catholique, mais au fur et à mesure de mes expériences, de ma vie, de changement de pays, de prendre connaissance de d'autres cultures, de d'autres religions, je suis devenue quelqu'un très ouverte. Je me considère déjà comme une Européenne et pas juste une Polonaise. Je souffre souvent pour ce pays, pour la Pologne. Par contre, je ressens mon destin d'être là pour pouvoir aussi transmettre quelque chose en tant que Polonaise, exactement.
Vous souhaitez faire connaître les auteurs polonais à la France, finalement, c'est ce que vous faites. C'est un lieu refuge, ce théâtre à Paris, pour cet univers-là polonais. Et puis aussi, vous êtes dans une sorte de trait d'union entre ces deux pays. Vous pensez à monter un texte de Victor Hugo, La fin de Satan,
oui,
qui raconte nos deux destins, ce qui nous lie, la Pologne et la France.
Oui, et le lien que la Pologne n'existait pas à certaines périodes, la fin du 19e siècle, elle n'existait pas. Elle était plutôt là, en France. C'est à Versailles que le statut de Pologne était signé. Et c'est ça aussi. Moi, en habitant ici en France, je ne me sens pas du tout très étranger parce que je ressens l'esprit de mes ancêtres. Surtout de grands artistes, de grands écrivains comme Norvid qui a vécu là, comme Slovatsky qui a vécu là, comme Mickiewicz. Et en plus, tous les grands personnalités qui ont apporté beaucoup aussi, comme Marie Curie Skłodowska ou notre cher pianiste, musicien, compositeur Frédéric Chopin. Je ne me sens pas du tout loin. Et Victor Hugo, je pense qu'il y est dans nos deux pays, exactement.
Et on embrasse Marie Curie?
Oui.
On l'oublie pas quand même.
Oui, il ne faut pas oublier Marie Curie.
Je vous emmène, même si vous avez oublié vos papiers à la maison, Elisabeth Tcherchouk, à Cracovie, ville incarnée par une légende, je crois. C'est quoi l'histoire de cette trompette saluée par les cloches de l'église?
C'était avant la guerre en 1939. Il y avait cette tradition en Pologne qu'il y avait toujours un musicien qui montait sur la tour de l'église principale à Cracovie et qui a joué toujours la même mélodie. En 1939, il était tué pendant qu'il a joué.
Oui, il a été tué alors qu'il jouait.
Et maintenant, ça est devenu une tradition qu'à midi, chaque jour, il y a toujours cette musique qui est transmise par la radio. Mais aussi, il y a un artiste, un musicien qui monte toujours sur la tour de cette église et qui joue, mais jusqu'à un moment où l'artiste a été tué. Alors, ce n'est pas l'intégralité de cette mélodie, mais juste une partie qui se termine et qui nous trouble toujours parce que c'est ce moment-là quand il était tué.
En sol majeur. @rfi.fr.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Elisabeth Tchertchouk, quelques chandeliers, quelques lustres de cristal aussi pour habiller ce théâtre à Paris dans le 12e, où vous pourrez voir les 21, 22, 23 septembre dans le cadre du festival OK, la trilogie Démentia Précox, Requiem pour les artistes et Matka. Bon vent. Chère Elisabeth, on va refermer ton sol majeur avec une autre de vos musiques, Michael Nyman, Time Lapse. Je ne sais pas si je prononce très bien. Pourquoi ce choix ?
C'est le fragment que je choisis dans mon spectacle aussi, Requiem pour les artistes. Et le spectacle, je reprends après les vacances. Et ça me touche, c'est très fort. De nouveau, je vais répéter que ça touche pas juste
les
la
tripes.
Tête, mais les tripes.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast avec notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine et on vous espère avec Chantal Aounou. À la semaine prochaine.